Juste avant, nous avions Clave avec le morceau Party Hardy. Et encore avant, nous écoutions Unique featuring AC Manual To The Floor.
Bonjour auditeurs, Spectaculaire est de retour. Après une petite pause la semaine dernière, émission numéro 288, mercredi 22 février 2023, Christophe Roland au micro, Francis est présent, Claire Delamarche est également là, musicologue ainsi que conservatrice de l'orgue et puis aussi, je crois, responsable des publications de l'Orchestre National de Lyon. Elle vient nous parler de la deuxième partie de saison. On peut considérer que c'est un peu le cas. Il y a déjà, il s'est écoulé 4 mois et demi, septembre, même 5 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, tout petit bout de février. Il reste encore un autre bout de février avec de très beaux concerts à venir. Et puis ensuite, mars, avril, mai, juin, vous allez voir le programme de juin. Le Requiem de Verdi, voilà, j'ai lâché. De toute façon, vous étiez tous au courant, toutes au courant, vous le saviez. Mais ça va être vraiment une très très belle œuvre donnée à l'auditorium. Et donc, nous allons évoquer tous les concerts qui iront de ce vendredi, de ce mercredi aujourd'hui, 22 février. Un très bel orchestre, concert très beau d'Amsterdam qui est présent ce soir. Nous irons jusqu'à la fin juin. Voilà. Nous allons évoquer tout ça. Et pour commencer, pour vous donner envie d'aller dès demain à l'auditorium, concert des jeudi 23 et samedi 25 février, demain 20h, samedi 18h, la troisième symphonie de Saint-Saëns, symphonie avec orgue. Eh bien, pour vous mettre dans l'ambiance, écoutons le final. Un final maestoso allegro. C'est dans la version de l'Orchestre National de Lyon qui l'a enregistré sous la direction de Leonard Slatkin avec Vincent Vernier à l'orgue. Écoutons, voilà, d'ici 5 secondes, le temps que je vous dise que vous nous écoutez sur radiocanu.org, si c'est sur internet, c'est très bien, et si c'est à Lyon, c'est sur le 102.2 de la bande FM. Auditeur, auditrice, ce n'est pas de gaieté de cœur que je fais cela. Vraiment, ah, c'est pas beau de zapper, de passer la fin de ce morceau. Je répète encore de quelle version il s'agissait. C'était l'Orchestre National de Lyon, celui que vous pourrez entendre demain ainsi que samedi, jeudi 23 février et samedi 25, 20h demain le jeudi, 18h le samedi. Et c'était bien l'Orchestre National de Lyon, dirigé par Leonard Slatin. Je crois qu'il a fait, parmi les derniers directeurs musicaux, il a fait sonner l'orchestre comme June Merkel a très bien fait sonner aussi. Actuellement, Nicolas Schepp-Snyder le fait très bien sonner. Mais David Robertson, c'était très bien aussi. Mais alors, j'ai souvenir d'une version de Cambrelin, la Turangalea Symphonique avait bien sonné. Mais là, Slatkin avec l'orchestre formidable. Vincent Varnier était à l'orgue. Je vous remercie, Claire de la Marche.
Ah bah merci.
Et je vous dis également bonjour.
Bonjour, oui.
Donc, je vous remercie parce que c'est votre enregistrement. Il est accessible. On peut le trouver dans toutes les.
Chez tous les bons disquaires. C'est chez Naxos.
C'est chez Naxos, une version de il y a quelques années.
2013, hein, c'était pour l'inauguration de l'orgue restauré.
Et vous étiez d'ailleurs déjà venu. Bonjour Francis.
Salut.
Je manque à tout. Tu es de retour, c'est très bien. Vous étiez déjà venu, émission numéro 13, du 13 novembre, mercredi 13 novembre 2013. Vous étiez venu avec Michel Gaillard pour évoquer la reprise, pour évoquer la sortie des travaux de l'orgue avec donc une nouvelle saison de concert. Et vous êtes de retour, 10 ans après, nous sommes en 2023. Vous ne l'aviez pas fait à l'époque. Pourriez-vous le faire peut-être un peu brièvement, retracer votre parcours? Ensuite, c'est bien ce que nous étions dit. Nous aborderons les concerts à venir. Il y en a un dès ce soir, le mercredi 22 février, 20h, le Concertgebouw d'Amsterdam, qui est l'orchestre, c'est un orchestre formidable. Et puis il y a encore d'autres concerts à venir, les 23 et 25 mars, ce sera la troisième de Mahler. Enfin bref, plein de choses. Mais pour commencer, peut-être quelques mots de cette musicologue que vous êtes depuis déjà quelques années à l'auditorium.
Ah bah ça fait 32 ans que je suis à l'auditorium, 22 ans que je suis musicologue, donc mon parcours est vite résumé.
Sortie des études, c'était directement
quasiment, oui.
Et alors, quelles études à Lyon notamment
ou c'est, J'étais au conservatoire de région à Lyon, et puis après au conservatoire de Paris, à Paris, puis un peu de fac, un peu d'université, pour enrober tout ça.
Et vous jouez quel instrument?
Je jouais AIS parce que je ne joue plus de la clarinette.
Okay. Ah, d'où peut-être cette. Nous évoquions Saint-Saëns tout à l'heure hors antenne et vous êtes sensible à une. C'est une sonate,
oui,
c'est
la
ça
sonate pour clarinette. On se demandait si Saint-Saëns était un grand compositeur. Je pense que oui.
Celle-ci est une belle œuvre.
Et ça, en plus, mon défunt professeur au Conservatoire de Paris, Yves Gérard, était le biographe et le grand spécialiste de Saint-Saëns. Donc il nous a transmis un peu cet amour.
Êtes-vous, Claire de la Marche, biographe ainsi que grande spécialiste de Bartok?
Voilà.
On peut le dire.
Grande, je ne sais pas, mais
c'est une belle œuvre.
En tout cas, oui, j'ai passé du temps. Oui.
Vous avez publié donc est-ce qu'on appelle cela une somme? Oui,
c'est un peu la somme en français parce qu'il n'y a pas d'ouvrage de cette importance-là en français.
Chez Fayard,
oui.
Et donc, ça vous a demandé quelques années, je crois.
Une
c'est
dizaine
ça
d'années, oui.
Petite dizaine d'années, avec des voyages, oui.
Avec beaucoup de voyages, oui, oui, à Bruxelles et à Budapest, qui étaient les deux plus gros fonds à explorer.
Et c'est un musicien, Bartok, qui est, selon vous, assez programmé à l'auditorium ou
Ah ben, il ne peut pas être assez programmé,
jamais assez.
Il n'est pas programmé.
Si, il a des petites œuvres à venir, il y a, je crois, des danses. D'ailleurs, j'ai cherché un enregistrement chez moi, je ne l'avais pas. Des danses roumaines qui seront données prochainement.
Oui, c'est très anecdotique, parce que ce n'est ouais pas une œuvre majeure. Et c'est une œuvre très sympathique, hein, que j'aime beaucoup, mais ça dure 7 minutes. Enfin, ça n'a rien à voir avec jouer un concerto, jouer... un ballet ou voilà.
J'évoquais tout à l'heure David Robertson, l'orchestre l'ONL a enregistré avec lui une belle partition.
Le mandarin merveilleux, dans une version en plus qui venait d'être reconstituée, parce que le mandarin merveilleux a une histoire très complexe. Et là, le fils de Bartok, Peter, avait, avec des musicologues, refait une version le plus fidèle possible en reprenant toutes les étapes, tous les manuscrits qui existaient, toutes les éditions qui existaient. Et donc on a enregistré avec David Robertson, ce mandarin revu et corrigé, quoi, qui venait de sortir en partition.
Donc depuis une vingtaine d'années que vous êtes à l'auditorium, vous avez vu passer quelques chefs d'orchestre. David Robertson, c'était les années 2000, même Emmanuel Cribine, vous l'avez connu aussi.
J'ai eu, oui, 10 ans.
David Robertson, June Merkel ensuite, Leonard Slatkin, et puis donc actuellement, et vous voyez, transition toute faite, actuellement c'est Nikolai, je ne sais jamais comment prononcer ce nom danois, Schepp-Snyder,
c'est polonais en fait, comme nom.
Donc, oui, mais il est natif du Danemark.
Alors, il est natif de Copenhague, mais le nom est polonais, donc ça se prononce à la polonaise, en fait. Donc, ce qui ne vous avance pas beaucoup, parce qu'on ne sait pas tellement plus prononcer le polonais que le danois, a priori. Mais...
Chef depuis 2019, c'est ça, je crois, avec une deuxième saison qui était un peu compliquée, même d'ailleurs une première saison, là, à partir de mars 2020,
ça a été difficile pour tout le monde. Il a atterri quasiment directement dans le Covid.
Mais... il lui reste encore quelques concerts à venir à Lyon et c'est
et
ce que
années.
Nous voilà certes oui puisqu'il a il est même
il a signé donc là
un contrat prolongé
4 saisons devant nous donc c'est formidable
un petit avis ou c'est délicat à prononcer sur ce
là,
chef
non
il est formidable
je donne tous les avis que vous voulez sur c'était déjà une de mes idoles avant que il soit question qu'il vienne chez là parce que c'est un violoniste on en parlera certainement c'est un violoniste absolument exceptionnel alors quand il est devenu mon patron j'étais Trop bien. Donc il est violoniste à la base, il s'est mis progressivement à la direction, il mène les deux de front en fait. Et on est le premier orchestre dans lequel il s'investit à plein temps comme directeur musical.
Il mène les deux de front, vous dites, ce sera effectivement...
Et ça s'entend parce qu'il fait un travail sur les cordes qui est phénoménal. Bon, on en reparlera aussi parce que ça, avec Mahler et Strauss, c'est fondamental.
Eh bien voilà, c'est un concert, à venir avec Strauss les jeudis 2 mars et samedi 4 mars, jeudi 20h, samedi 18h, le Don Quichotte de Strauss avec une première œuvre intéressante, vous pourrez peut-être la commenter, de Camille Pépin aux confins de l'orage, et puis une belle œuvre de Mozart aussi, la symphonie concertante pour violon et alto. Et donc je vois dans la distribution, je vois indiquer bien entendu Orchestre National de Lyon, Nikolai Schepp-Snyder, violon et direction. Anton Holmer, direction, et Pinkas Zuckerman, alto, et puis il y a même aussi Amanda Forsythe, violoncelle. Mais qu'est-ce que va être ce concert dans deux semaines à peu près ?
Ça va être un truc de malade, parce que notre chef qui va jouer du violon, qui va sortir son violon dans la symphonie concertante de Mozart. Donc il va faire la partie violon, et son idole absolue, qui est Pinkas Zuckerman, va faire l'alto, à la fois dans la symphonie concertante de Mozart, donc aux côtés de... Donc Snyder, quand Zuckerman est là, il est comme un gamin quoi, qui est devant son dieu vivant. Enfin, ils sont très complices hein, maintenant, parce qu'ils sont grands tous les deux, mais il le voit toujours aussi avec ce regard de quand il l'a connu adolescent. C'est un peu son mentor, on va dire. Et puis donc, ils jouent ensemble Mozart, et après, Zuckerman reste à l'alto, il joue avec sa femme le Don Quichotte, qui est une série de variations concertantes, avec un violoncelle et un alto... concertant, enfin un peu soliste en quelque sorte.
Parce que chaque instrument incarne plus ou moins.
C'est ça.
Un des personnages.
Et donc là, Snyder repassera à la baguette parce que autant Mozart, c'est un petit effectif, on peut diriger du violon, ça se faisait comme ça couramment à l'époque. Autant Strauss, c'est un énorme orchestre, il est hors de question de ne pas avoir un chef qui coordonne tout, sinon c'est vite la pagaille.
Le chef est plus ou moins Cervantes. Le violoncelle,
voilà,
le violoncelle est Don Quichotte, c'est ça, et l'alto, c'est Sancho Panza.
Ouais.
Auditeurs, auditrices, dans quelques instants, on va écouter un extrait. Alors, hélas, ce ne sera pas l'orchestre de Lyon, c'est un bon orchestre, l'orchestre de Boston, dirigé par Seiji Ozawa. Peut-être que l'on pourrait encore indiquer d'autres mots, les autres œuvres. J'ai parlé de Camille Pépin, parce qu'il y a une actualité à venir pour cette compositrice. On parle toujours de compositeurs, hein. Mahler,
Beethoven,
Wagner. Ah, il en existe tout de même.
Dans la nouvelle génération, c'est vrai qu'elles sont de moins en moins inhibées. Quoi. Donc je pense qu'il y en aura de plus en plus, parce que ça devient normal en fait, d'avoir des compositrices, ce qui a été compliqué pendant des années. C'est-à-dire que pendant des années, les compositrices, soit elles étaient vraiment meilleures que les garçons, soit elles avaient un caractère bien trempé, soit elles avaient beaucoup de chance. Mais là, maintenant, c'est vrai qu'on essaye de faire sortir des jeunes femmes, donc c'est le cas de Camille Pépin.
Elle est toute jeune, hein, je crois.
Oui, je sais pas son âge, mais voilà, à moins de 30 ans. Et on a enregistré plusieurs de ses pièces pour orchestre, dont Aux confins de l'orage, et le disque sort pour ce concert-là. Et elle sera là.
C'est peut-être aussi le rôle des institutions comme l'auditorium, justement, de mettre en valeur plus les compositrices.
C'est vrai qu'on est un service public, faut pas l'oublier. Donc on a aussi, on se donne cette mission-là. Service public, ça veut dire aller. C'est-à-dire qu'on est là, évidemment, on ne peut pas non plus pomper les finances publiques, donc on est obligé de ramasser de l'argent et d'être efficace sur le plan financier. Mais on a cette mission d'aller au-delà, vers des publics qui ne viendraient pas tout seuls, de défricher un peu les compositrices, les chefs d'orchestre, les répertoires.
Il y a une vraie différence sur des stars qui peuvent remplir l'auditorium, et puis des jeunes compositrices ou... Est-ce que vous sentez, vous, à l'auditorium, des différences de billetterie, tout simplement, d'affluence?
Oui, chaque concert est un pari. C'est-à-dire que avant de programmer quelque chose, on fait un tableau de prévisionnel, en fait. Voilà combien coûte le cachet, parce que plus la personne est célèbre, plus elle remplit, mais plus elle coûte cher. Donc après, on passe notre temps à faire des paris. Oui, il coûte cher, mais on va pouvoir vendre les billets plus chers parce qu'il est très connu et on espère une salle comble, machin. Ou d'autres, on se dit, bon, on les lance, ils sont moins connus, mais en même temps, les cachets sont plus bas, on peut vendre moins cher pour avoir plus de monde. On jongle avec tous ces paramètres et on essaye de pas trop se planter. C'est pas une science exacte. Mais des fois, on a des concerts qui marchent du feu de Dieu. On se dit, mais ah bon, on n'aurait pas mis un copec dessus. Et puis d'autres, on était sûr que ça allait être rempli en deux jours. Et puis voilà, ben, la France est en finale de la Coupe du Monde, je ne sais pas quoi, et hop. Et c'est le bide.
Ah, j'ai un souvenir en 98, une sorte de contre-programmation d'Emmanuel Krivine, qui pendant la Coupe du Monde qui se jouait en France au mois de juin, avait fait, je crois, une intégrale des... Enfin, non, je ne crois pas, je suis certain, une intégrale des symphonies de Beethoven. Qui était donné esprit de contradiction. J'extrais du beau livre que vous avez dirigé, le livre des 100 ans de l'orchestre, l'ONL, l'Orchestre National de Lyon, sorti en 2005, puisque c'est 100 ans, né en 1905, il y a de cela, ça fait plus de 15 ans, l'orchestre a eu 100 ans. Il y avait déjà une partie consacrée à la parité homme-femme à l'intérieur de l'orchestre. Interrogez votre mémoire. En 1905, toute laïque qu'elle fût, l'école était hostile à la mixité. Regardez ces façades anciennes, souvent jumelles et mitoyennes, dont les frontons annoncent école de filles et école de garçons. Oui, j'en connais un exemple sur la place Guichard dans Lyon. Et donc, à l'instant, tu demandais un peu, Francis, ce qu'il en était de la représentation des femmes. Moi, j'ai souvenir, enfin du moins, même pas souvenir, l'orchestre a toujours eu une forme d'ouverture, sans aucun problème que ce soit. Graziella Contrato, chef associé à l'époque.
Oui,
de...
mais c'était quand même exceptionnel à l'époque. Hein.
Et justement, voilà, une sorte d'effort. Et puis, il y a eu des œuvres de... Le nom est toujours compliqué à prononcer. Kaija Sariao, la compositrice
chinoise. Oui, mais justement,
chinoise.
Elle fait partie de ces personnes. Mais c'est ce que j'écris dans la... On en parlait tout à l'heure, la remouture de la musique classique pour les nuls. C'est quand on voit une œuvre de Sariao, personne ne se demande si c'est un homme ou une femme. Quoi. C'est Sariao, c'est un mythe, elle est au niveau de voilà. Alors il y a quelques femmes comme ça dont on se demande même pas si elles sont des hommes, des femmes. Elles sont elles et elles ont une telle force que c'est pas une question en fait. On les prend voilà. Mais il y a c'est quand même extrêmement rare ce genre de personnage, que ce soit pour les chefs, que ce soit pour les compositrices. C'est quand même pour la plupart il faut une volonté pour les faire émerger parce que bah, le monde de la musique est comme beaucoup d'autres est assez cruel et c'est bon, si on n'a pas une force de caractère hors du commun et qu'on ne vous aide pas à trouver votre place, c'est très très difficile de se frayer un chemin, tout simplement.
Mais pour ce qui est de l'orchestre, c'est très beau. Je suis en train de penser au premier violon. C'est magnifique. C'est donc deux musiciens. Un musicien, Giovanni Radivo. Francis, j'ai ses coordonnées. Il viendra à une émission prochaine. Il faudrait qu'on trouve dans quel cadre faire ça, pour quelle annonce de concert. En revanche, je n'ai pas les coordonnées de l'autre musicienne, qui est donc la deuxième. Enfin, non, c'est pas la deuxième, c'est également la première. Quoi. Ils sont tous les deux premiers violons. Jennifer Gilbert, ça fait longtemps qu'ils sont là et c'est très bien. C'est un orchestre qui a deux.
À l'intérieur de l'orchestre, il y a beaucoup moins de problèmes, à part peut-être quelques postes. C'est vrai que, par exemple, les percussions, les tubas, trombones.
Guy Laroche, dans votre livre, dans ce livre, dit que. Et certes, mais il dit que le coin. C'est le coin des machos. Comment est-ce qu'il formule ça C'est le coin des machos. Ironise en souriant le hautbois solo, Guy Laroche, qui qualifie. Les bastions masculins, je crois que ce sont le pupitre des vents et des percussions.
Oui, alors par exemple, on a la successeuse de Guy Laroche, Clarisse Moreau. Alors, déjà, c'est ils sont deux maintenant au bois solo. Et Philippe Berge, j'ai un trou sur son nom, il vient d'entrer. Malheureusement, je ne trouve plus son nom de famille, c'est honteux. Enfin, Philibert, de toute façon, il n'a pas 50, mais Philibert.
Vous ne pouvez pas connaître les sons de musiciens.
Bah, si, normalement, si, mais là, je ne sais pas, j'ai un bug. En tout cas, donc, il y a un garçon et une fille et qui jouent magnifiquement, et Clarisse, elle a un son incroyable. Et dans les hauts bois solo des grands orchestres, il y a beaucoup de femmes qui sont bois solo maintenant. Alors que c'est vrai que quand Guy Laroche a fait ses études, je pense qu'il y avait zéro femme dans les classes de devant, hors la flûte, évidemment. Alors, à la flûte et à la harpe, là, on avait des pléthores. C'était l'inverse, hein, parce qu'un gars qui faisait de la harpe, et je pense qu'on on regardait un peu de travers aussi. Mais voilà, tout ça, ça se...
Très genré, quoi. Vous êtes en train de dire que c'était très genré.
Mais ça allait de moins en moins. On a eu une corniste, Manon Souchard, voilà, une femme qui joue du cor il y a 50 ans. Je pense que ça n'allait pas courir les rues. Puis on voit dans les supplémentaires... quand on a besoin de renfort, qu'il y a des malades, qu'il y a besoin de plus de monde, ben on voit très bien qu'il y a des femmes qui arrivent dans absolument tous les postes, y compris au trombone ou au tuba. Voilà, ça, dans les instruments, ça bouge quand même un peu. Dans les cordes, il n'y a aucun problème, je crois même qu'on a plus de femmes que d'hommes.
Avec des œuvres de Andréane Détienne qui seront... données, créées, qui seront jouées. Je n'ai plus la date en tête.
C'est au mois de mai, semble-t-il,
je crois, le mercredi 5 mai. Avec un beau programme Wagner également. Je vais essayer de retrouver
Mahler,
les éléments.
Wagner.
Des œuvres de musique de chambre. Mahler en musique de chambre, c'est quand même très, très, très peu fréquent.
C'est un programme autour de la voix, donc avec des mélodies d'Andréane Détienne, qui est violoniste chez nous, qui est une fille formidable, qui compose, qui est une fille très, très riche et qui a fait ses. Ces mélodies, je ne les connais pas, mais connaissant la personne, ça va être forcément très bien.
Est-ce délicat à dire, Francis, c'est une grande blonde, c'est ça, non?
Ah, c'est une grande blonde, on ne veut pas dire le contraire.
Mais j'ai la date sous les yeux, mercredi 3 mai, mais non, il n'y aura pas de mercredi 5 mai, c'est à 20h, Wagner-Mahler. C'est le nom. Mais voilà exactement, premières œuvres données. Andréane Détienne, trois mélodies sur des poèmes de Paul Éluard, Marceline Desbordes-Valmore et Roger Kowalski. Gabriel Fauré également. Et puis ensuite.
Roger Kowalski, poète lyonnais, hein, et qui se trouve être l'oncle, si j'ai bonne mémoire, du compagnon d'Andréane ou du mari d'Andréane.
Qui est violoniste, chef d'attaque
des secondes.
Et puis donc des œuvres de Wagner et de Gustav Mahler. Peut-être pour finir ce premier tour d'horizon des différents concerts à venir et puis d'une sorte de présentation de l'orchestre, peut-être pourrait-on revenir. Puisqu'en début d'émission, on l'écoutait, et c'était formidable. Vincent Varnier, il est très très bel organiste dans cet enregistrement. Il y a encore l'orgue, il y a encore, comment dire, des moments, des manifestations, de belles manifestations de l'orgue. Je retrouve votre présentation qui indique qu'il y a à la fois des films. Claire, que souhaitez-vous évoquer dans quel ordre?
En fait, c'est un peu tout en même temps, puisque c'est le même organiste, donc c'est la semaine du 6 mars, ça va de toute cette semaine, ça se conclut sur le 12 mars, le dimanche, avec le ciné-concert pour les grands, sachant que dans la semaine, il y a des ciné-concerts pour les petits.
Le Hérisson dans le brouillard pour les petits, le samedi 11 mars à 11h.
Maintenant, il s'appelle Dans la brume, parce qu'entre-temps, la maison qui nous fournit les films a un peu regardé de plus près tout ça. Donc, il est en fait dans la brume, ce qui est plus poétique.
Sur trois séances, 11h, 15h et 17h, le samedi 11 mars, de Yuri Norstein, Le Hérisson donc dans la brume, et d'autres courts-métrages d'animation. Paul Gousseau sera à l'orgue, à l'improvisation. Julien Bessa sera le bruiteur, et puis il y a un comédien, Damien Laquet, comédien voix. Paul Gousseau, improvisation, vous souhaitez en dire un mot de l'improvisation? À quel degré improvise-t-il?
Alors déjà, j'aurais dire juste un mot sur le concept, parce que maintenant, ils en sont à leur troisième série de courts-métrages, tous les trois. C'est une équipe qu'on a formée, nous. Et donc, en fait, on coupe le son du dessin animé. Et donc, Damien Laquet fait tout ce qui est paroles, et surtout tous les bruits d'animaux, les petits cuicuis, tous les petits bruits. Et Julien fait tous les bruits de la forêt, tous les bruitages. Alors, c'est très impressionnant parce qu'il a tout son bazar devant le micro. Et donc, Paul Gousseau fait l'improvisation pour faire le climat, en fait, le climat musical autour de tout ça. Alors, à quel degré on improvise? Ben, improviser, ça veut dire que tout sort du chapeau. À l'instant T.
Il n'y a pas de partition sous les yeux.
Donc c'est vraiment un exercice auquel on s'entraîne pendant des années pour pouvoir construire un discours musical qui tienne la route comme ça dans l'instant présent. Alors dans le cas d'un film, c'est à la fois il y a ce jaillissement de l'improvisation sur le moment, mais en même temps il y a un travail préparatoire. Parce que si vous regardez des images, c'est encore plus vrai dans le long métrage pour les grands du 12 qui est L'homme qui rit.
De Paul Leni, 1928.
D'après Victor Hugo, d'après le roman d'Hugo. Et Si vous êtes en réaction à l'image, vous n'apportez rien. Vous faites du robinet à musique pendant une heure et demie et voilà. Donc le travail en amont, ça va pas être d'inventer les thèmes musicaux, mais ça va être de savoir toujours ce qui suit pour pouvoir préparer une ambiance. Là, vous êtes dans un truc très joyeux, puis pendant que vous avez à l'image un truc très joyeux, l'or commence à faire des machins qui grincent en dessous pour vous
conduire vers la séquence suivante.
Voilà, pour vous mettre un petit malaise et comme ça, vous êtes quand l'image arrive, vous êtes pleinement dedans parce que vous avez été préparé.
Conditionné un petit peu.
Et c'est très très différent de quelqu'un qui fait du robinet à musique pendant une heure et demie. C'est pas du tout le même film à la fin.
Prends part à la narration.
Donc c'est vraiment, ça décuple en fait l'effet de l'image. Et c'est vrai c'est aussi dans les courts-métrages, dans Le Hérisson, dans La Brume, ils ont en fait l'image qui défile avec une seconde d'avance pour le bruitage et les paroles. Et donc ils sont toujours pile. Ils peuvent tout anticiper, être pile sur l'image. Donc c'est bien rodé maintenant. Bah, comme un doubleur qui va faire un doublage en français d'un film, c'est le même système.
Et donc vous dites que c'est bien rodé, ce sont des formules qui marchent, là le public
c'est
vient,
la même équipe
les
en fait, on a formé cette équipe-là un peu, je dis pas au pif, parce qu'on savait pourquoi on prenait ces trois-là, mais ils se connaissaient pas, donc il a fallu qu'ils apprennent à se connaître, faut doser tout ça, faut pas qu'il y ait trop d'orgue, faut pas qu'il y ait pas assez d'orgue, enfin il faut trouver l'équilibre entre tout ça.
Et cela a marché.
Et ça a marché, ça s'est rodé. On a fait ça avec la petite taupe, je sais pas si vous connaissez des courts-métrages tchèques, avec
oui,
une
c'est,
taupe.
Ça dit quelque chose, hein.
C'est magnifique, vraiment j'adore ces dessins animés. Puis on a fait tous les petites taupes, on a fait deux séries qu'on a reprises, etc. Puis là on s'est dit, allez, on va changer un peu d'univers. Mais on a gardé cette équipe parce qu'ils ont des réflexes maintenant, ils se connaissent par cœur, donc c'est chouette quoi.
Et donc l'orgue qui va connaître un début de mise en avant demain le jeudi 23 ainsi que samedi 25 février avec la symphonie de Camille Saint-Saëns, la numéro 3 avec orgue que nous écoutions, il y aura une sorte de fin de saison pour l'orgue le vendredi 9 juin à 20h, récital Iveta Akpalna, des œuvres de, je vais pas réussir, Peterich Vashk, Sofia Gubaidulina, Lionel Rogue, Leos Janacek, Dimitri Shostakovich, à nouveau Peterich Vashk, et puis aussi Johann Sebastian Bach. Jean-Sébastien Bach, quoi. Est-ce que vous souhaitez commenter un peu ce programme, cette soliste? Moi, je l'ai trouvé. Je cherchais une adaptation, je cherchais un exemple, enfin, une vidéo à mettre éventuellement sur le blog de Iveta Akpalna et Kalna, et je l'ai trouvé justement interprétant cette troisième symphonie de Saint-Saëns avec orgue. Bon, ce sera le récital de fin de saison, et le programme est beau.
Alors le programme est très original, c'est sur un peu la notion d'ombre et de lumière et d'obsession, c'est un truc qui est très construit, vraiment c'est un beau programme avec des œuvres rares. Donc Peterich Vashk, c'est un compatriote elle qui est letton. Letton, donc c'est un peu dans le genre Arvo Pärt, enfin c'est compositeur letton, estonien, qui sont voilà, un peu planants, on va dire. Un peu planants, un peu voilà. Et puis sur ce côté, il y a la Passacaï de Bach et la Passacaï de Shostakovich. Donc la Passacaï, c'est une forme qui ressasse, c'est toujours le même thème, qui est décliné avec des variations, mais qui est très insistant comme ça. Donc c'est un très beau programme. Alors on parlait des femmes compositrices, des femmes chefs d'orchestre, mais alors dans l'orgue c'est pareil quoi, pour que il y a plein de filles dans les classes de conservatoire, et puis après elles s'évaporent, on ne les voit plus. Donc quand on en a, on essaye de les pousser en espérant qu'elles vont faire carrière. Il y a plein de jeunes femmes extrêmement talentueuses. Après, je ne sais pas pourquoi. Dans la génération d'au-dessus, alors espérons que celles qui sortent maintenant des conservatoires vont réussir à se maintenir. Mais c'est vrai que dans la génération d'Abkalna, qui doit être, je ne sais pas, elle doit être entre 40 et 50, on va dire, il n'y a pas grand monde, quoi. Enfin, il y en a, hein, mais au top niveau international, c'est compliqué.
Récital d'orgue, fin de saison pour l'orgue, parce qu'il sera donc vraiment mis en avant demain pour cette troisième symphonie de Saint-Saëns. Il sera également très utilisé à la mi-mars avec les ciné-concerts. Et puis donc récital de fin de saison le vendredi, j'ai indiqué, le 9 juin à 20h pour ces œuvres, pour ce programme que vous commentez à l'instant. Peut-être que l'on pourrait, pour vous reposer un peu, Claire, vous avez beaucoup parlé depuis ce début d'émission, peut-être qu'on pourrait écouter un extrait je l'ai déjà calé, un extrait de Don Quichotte. Et puis ensuite, auditeurs, auditrices, autant on est en train de parler de la fin de saison avec le récital d'orgue, mais il y aura une autre fin de saison avec l'orchestre symphonique qui sera dirigé par son chef, Nikolai Shepp-Snyder. Ce sera
le 24 juin, je pense.
Le 24 juin, voilà. Concert pour quelle œuvre?
Ah, vous, je pensais que vous parliez de...
Du Requiem.
Ah, le Requiem de Verdi. Non, non, je pensais que vous parliez du concert en plein air à la Tête d'Or.
Eh bien, c'était presque fait exprès, auditeur, auditrice. Vous souhaitez savoir ce qui va en être de cette fin de saison. Il y aura plein de choses, auditeur, auditrice. Restez à l'écoute. Petite pause, donc, avec... alors, mais quel passage maître de cette variation?
La troisième variation, là.
La troisième variation,
c'est la... le dialogue entre Sancho Panza
Mais c'est Guest Sight Mass.
Alors, je sais pas, mais c'est le dialogue entre le violoncelle et l'alto, entre Don Quichotte et Sancho Panza.
Je crois que je l'ai. J'espère que c'est bien ça. 9 minutes. On va peut-être pas écouter toutes ces 9 minutes.
Mais justement, parce que les autres sont très courtes. Ça, c'est une des variations un peu longues.
Eh bien, ce n'est pas, hélas, l'interprétation de l'Orchestre National de Lyon. Auditeur, auditrice, si vous souhaitez l'écouter, eh bien, il faudra vous rendre à l'auditorium. Les dates, écoutez les dates. Je vous les donnerai une fois que nous aurons entendu cet extrait et nous reprendrons ensuite pour parler de l'auditorium avec Claire Delamarche et puis Francis Chronique en fin d'émission également. Je crois que c'est la 23, hein, c'est ça ?
Ça doit être ça, oui.
Ce sera la 23. Don Quichotte de Richard Strauss. Auditeur, auditrice, c'est affreux. Je me permets à nouveau cela, de ne pas aller au terme du morceau, parce que voilà, des impératifs techniques. Et si vous souhaitez savoir ce qu'il en sera de la fin de ce beau morceau, il faudra assister au concert donné à l'auditorium par l'Orchestre National de Lyon, sous la direction de son chef, son directeur musical Nikolai Schepp-Snyder, qui sera à la direction comment appeler ça? Une sorte de symphonie concertante, parce qu'attention, il y aura bien une symphonie concertante, ce sera celle de Mozart en première partie, et là, il ne sera pas à la direction. Il fera les deux.
Il fera les deux,
au violon, ainsi qu'à la direction. Ce sera les jeudis 2 mars et samedi 4 mars, le jeudi à 20h, comme toujours, et le samedi à 18h. Et puis, il y a d'autres dates que je pourrais encore donner, mais je vous en prie, Claire, nous étions dit que nous évoquerions différents concerts à venir. Je lançais à l'instant, je parlais de celui de Verdi. Vous avez évoqué, vous aussi, le concert de fin de saison, et puis, il y a du Malheur à venir.
Oui, si on fait dans l'ordre chronologique,
c'est dans l'ordre.
Déjà Malheur.
Très bien.
Oui, il y a encore un concert avec Nikolai Schepp-Snyder, avec la troisième de Malheur. Donc Malheur, c'est comme Strauss, comme Richard Strauss qu'on vient d'entendre, c'est un des compositeurs fondamentaux, à la fois dans l'absolu, et à la fois pour faire travailler l'orchestre, pour leur donner une patte, surtout aux cordes, vraiment renforcer la cohésion et la puissance des cordes. Donc il fait beaucoup de ce répertoire post-romantique allemand, en l'occurrence autrichien, mais enfin bon, germanique. Et donc la troisième de Malherbe, c'est une œuvre géniale, parce que c'est l'œuvre dans laquelle Malherbe a voulu représenter l'univers entier. Donc il y a tout. Il parle de la nature, il parle de l'homme, il parle de l'amour, il parle de Dieu, de tout quoi. C'est... Et pour réussir à parler de tout, bah, il a besoin de force musicale énorme. Donc il y a une alto solo et il y a un chœur d'enfant. Et l'alto solo est seul dans le quatrième mouvement, il y en a cinq en tout, et dans le dernier mouvement, le cinquième, il y a à la fois l'alto solo et le chœur d'enfant, et c'est très très beau. C'est le dernier mouvement est consacré à l'amour et à la joie, et donc ça finit de manière très fraîche, cette fresque énorme, enfin, et on repart avec vraiment le cœur plein de joie, de tendresse, de paix, c'est... Par les temps qui courent, c'est pas mal.
Vous le commentez, hein, je crois, vous commentez cette œuvre, me semble, dans cette petite publication que je trouve formidable, les 100 chefs-d'œuvre de la musique classique, Claire de la Marche, au First Edition, épuisé, hein, j'ai une version dans les mains de 2009. Oui, c'est bien ça, c'est la partie qui ouvre, c'est l'œuvre qui ouvre le 20e siècle, la 3e symphonie de Gustav Mahler, 1902. Composé au tournant des 19e et 20e siècles, les 9 symphonies de Mahler forment un monument gigantesque. 4 d'entre elles sont purement instrumentales. Les 5 autres mêlent à l'orchestre l'autre médium privilégié du compositeur, la voix. Et vous continuez. Et ensuite, quand vous développez un écouter, parce qu'à chaque fois, il est bien fait ce petit ouvrage. À chaque fois, il y a une sorte de présentation générale de l'œuvre. Et puis ensuite, soyez attentif à tel passage, tel élément. Écoutez, vous proposez 3 petits points. Les cloches du paradis. Tous les protagonistes sont réunis dans le 5e mouvement, en brillante polyphonie. Divers éléments musicaux se superposent en permanence, fusant à travers l'orchestre et les voix. Le chœur des femmes sur une chanson populaire, Les Trois Anges, répond aux interrogations angoissées de l'alto solo, tandis que le chœur d'enfant imite le martèlement immuable et désincarné d'une cloche. De véritables cloches enrichissent leur sonorité. Bim, bam, bim, bam. On peut nommer peut-être la soliste qui sera... Oui, vous la recherchez, moi aussi, je vais l'avoir sous les yeux. Est-ce que je l'ai ici? Oui, je vais la trouver.
Ça va me revenir. Hein, mais
je vais la trouver. Je suis dans le Requiem de Verdi. Je l'ai trouvé.
Anaïque Morel, mezzo-soprano.
C'est une lyonnaise, c'est une locale, hein, c'est ça?
La fille de Régine Teodorescu, qui était la prof historique de solfège au conservatoire de Lyon.
Belle distribution. Il y aura donc l'ONL dirigé par, nous l'avons indiqué, Nicolas Schepp-Snyder, le spirito, le chœur de femmes préparé par Nicole Corti, et puis le jeune chœur symphonique, préparation Clara Baget. Puis il y a également la maîtrise de l'Opéra de Lyon, le chef de chœur c'est Karine Locatelli. Ce sera un beau concert. Nous avons indiqué les dates, les jeudis 23 et samedi 25 mars. C'est dans un mois pile demain. Jeudi 23 à 20h, samedi 25 à 18h. D'autres concerts encore. Là, je vois le concert Kaamelott à venir, ciné-concert. Mais bon, c'est un régional aussi, Alexandre Astier. Mais de toute façon, je crois que c'est complet, hein, c'est ça, il me semble.
Oui, oui.
Oh là là, c'est compliqué de parler de concert complet.
Peut-être que si vous le demandez gentiment, on le refera dans les saisons qui viennent.
Donc il s'agit sur 4 dates, c'est ça, les jeudis 30 mars, vendredi 31, samedi 1er avril et dimanche 2 avril. Il s'agit de voir le film, premier volet de Kaamelott, avec la musique composée par Alexandre Astier, qui a déjà été enregistrée, hein, par l'orchestre.
Que l'orchestre a enregistré, oui, en disque.
Il a déjà sorti en disque.
Fait en direct.
Donc le chef sera Frank Strobel, qui est un habitué de l'ONL.
Ah oui, il est très
l'ONL.
Très fort, parce que c'est un exercice
pour
très particulier de suivre un film. Hein, faut être
ah oui, le film sera projeté, je ne l'ai peut-être pas dit. Le film est projeté, c'est ciné-concert.
Il a des toc-toc-toc, des bips dans l'oreille, et il fait ça admirablement. On fait beaucoup de ciné-concert.
Je crois l'avoir vu diriger la partition de Matrix.
C'est ça.
Ça avait été superbe, j'ai bien aimé ça.
Mais du coup, il y a beaucoup de ciné-concert, en fait.
Oui, on a l'Institut Lumière.
Avec différents accompagnements.
On fait aussi bien des films de 1920 muets que des gros... Des grosses
Back to the Future, c'était l'année dernière. Ah ouais, enfin, il y a une saison et demie, c'était formidable.
Ouais, ouais, on a fait
Star Wars
des
aussi.
Anneaux, Star Wars. Dès qu'il y a une partition musicale qui est suffisamment importante pour justifier qu'on fasse en concert, voilà. On a fait, ouais.
Quels autres concerts encore évoqués, Claire? Est-ce que...
Ah ben après, on va évoquer Verdi.
On est obligé.
Bien d'accord, on ne repart pas sans avoir
parlé
de Verdi.
Non, on est obligé. Les dates, je les ai sous les yeux, les jeudis 8 juin et samedi 10, jeudi 20h, samedi à 18h. Requiem de Verdi, une œuvre, on ne l'a peut-être pas indiqué pour la troisième de Mahler, c'est l'unique programme. Hein. L'œuvre est tellement longue.
Il y a déjà de quoi
les deux, c'est plus ou moins 2 heures, c'est ça, je crois. La symphonie, 1h45 peut-être.
Oui, voilà.
Et alors, le Requiem, comment en parler? Est-ce que vous en parlez aussi dans la petite brochure?
On écouterait pas Malheur un petit peu, parce qu'on l'a promis aux auditeurs.
Eh bien, je l'ai, très bien. Nous l'avons. Donc, le bim-bam des enfants. Et puis, on va arriver tout doucement aussi à la chronique de Francis, mais il nous restera encore du temps d'évoquer le Requiem de Verdi. Et puis, le concert de fin de saison aussi, le concert.
À la Tête d'Or.
C'est intéressant. Là, vous parliez des instrumentistes, des musiciens qui disparaissent des conservatoires. L'orchestre propose de leur remettre la main dessus. C'est un petit peu ça?
Ah ben, on va voir.
Écoutons, Malheur dans une version. Alors, l'orchestre l'a enregistré avec June Merkel, mais c'est peut-être pas un CD à écouter.
Si, tout à fait. C'est juste que j'avais pas chez moi, donc j'ai apporté Kubelik.
Donc, ben, écoutons la version de Kubelik, et puis nous continuons à. Hop, ben, finalement, j'ai dit qu'on allait écouter, et j'étais même pas dessus. Si, on l'aura bien. Et puis, nous continuerons ensuite sur d'autres concerts à venir à l'auditorium. C'est un exercice vraiment affreux, hein, Claire, aujourd'hui. Claire de la Marche, c'est terrible. Je ne fais que passer. Eh ben moi non plus, hein, moi non plus qui suis au manège. Je ne fais qu'envoyer, qu'évacuer la fin des morceaux. Mais c'est formidable. C'est la 4e symphonie de Malheur qu'on écoutait. Et non, ce n'était pas la 4e. Oui, mais vous le savez que la 4e dans le 3e mouvement reprend. Ou 4e mouvement?
Non, c'est-à-dire que le 6e mouvement de la 3e, il trouvait quand même que c'était déjà un peu long. Alors il a mis un mouvement de côté qu'il a recasé dans la symphonie suivante.
Mais il me semble que c'est cette mélodie qui est chantée par. Peut-être le timbre est-il différent? Est-ce que c'est encore mezzo-soprano ou plutôt soprano? Je ne sais plus.
Non, mais
pour la 4e.
C'est soprano, oui, exact.
Donc, ce sera un bon concert à venir au mois de mars, dans un mois pile. Requiem de Verdi, vous étiez en train de commencer à en parler et nous nous sommes interrompus. C'est le concert dont vous souhaitez dire. Ah oui, je voulais chercher si dans la petite brochure vous l'évoquiez, je ne suis pas certain. Vous évoquez, je crois, la Traviata et d'autres œuvres, mais je ne suis pas certain.
Il va y avoir un cas de conscience.
Comment la qualifier cette œuvre? Vous partirez sur l'île déserte, c'est celle que vous emporteriez?
C'est celle que j'emporte sur l'île déserte, parce qu'il y a tout en fait. C'est un peu comme Mahler qui disait, il y a tout dans ma 3e symphonie. Je pense que c'est un peu pareil au point de vue des émotions dans le Requiem de Verdi, parce qu'il y a, tout, il y a des choses fracassantes, il y a des choses très lyriques, il y a des choses très dépouillées, des choses très tendres, très consolatrices, enfin il y a une variété de... incroyable d'émotions, de style, enfin pas de style musical, c'est toujours du Verdi, mais d'effectifs. Il y a des choses avec un énorme chœur et des choses avec quelques instruments et une voix. Il y a des choses très proches de l'opéra, des choses beaucoup plus style musique sacrée. Enfin, c'est extrêmement riche. Et puis bon, tout me touche énormément dans ce qui est écrit là-dedans.
Quoi. Du relief, quoi.
Ah oui, ça.
Eh bien, vous en parlez bien dans ce petit ouvrage, vraiment microscopique, le format qu'il a, mais c'est formidable, les 100 chefs-d'œuvre de la musique classique par Claire de la Marche, la Messa des Requiem, d'Ar Requiem de 1874, Giuseppe Verdi, c'est la mort de l'écrivain Alessandro Manzoni en 1873, qui déclencha la composition de l'un des plus grands chefs-d'œuvre du répertoire religieux. Profondément affecté, Giuseppe Verdi n'eut pas le courage d'assister aux funérailles, mais il imagina de composer une œuvre à la mémoire. Un an plus tard, le Requiem résonnait en l'église San Marco de Milan, avant de s'envoler pour une glorieuse carrière. Il s'ouvre et se referme dans le plus grand recueillement. Et puis, vous évoquez différentes choses, et là, vous proposez d'écouter, trois petits points, une fugue. Dans la multitude des procédés musicaux utilisés dans le Requiem figurent deux fugues, le Sanctus et le chœur final du Liberame. La première adopte un style flamboyant, la seconde un ton plus inquiet, celui d'une imploration. Une fugue se caractérise par l'entrée successive, etc. Auditeur, auditrice, j'espère que ce sera réédité, parce que je ne vais pas en faire toute la lecture, mais peut-être petit extrait que nous pourrions écouter. Ensuite,
Si vous voulez la fugue, on met la fugue du Sanctus.
Ah, mais non, mais
sinon,
tout,
on peut mettre
tout.
Le Désiré, parce que
très bien,
là,
très
si
bien.
Si vous non. n'avez jamais entendu l'Apocalypse en musique, c'est là.
Et bien, c'est formidable, ça fera une introduction pour la chronique à venir de.
Ah, super, mais l'Apocalypse.
faut pas que je me trompe de CD1. Hein. C'est bien le CD1. C'était l'équipe plage de Désiré, effectivement, jour de colère. Nous enchaînerons ensuite, et puis fin d'émission, moi j'ai quelques annonces à faire sur, Claire, il y a de la musique qui se fait à Lyon ailleurs qu'à l'auditorium, mais promis, vous allez voir que c'est très intéressant, c'est du Bartok qui va être donné, et vous savez à quel endroit ? Ce sera à l'opéra, et
oui.
C'est le
château de l'Arbenu.
Kiskaskalou. Oui, voilà, c'est ça.
Herzegvaro.
Voilà, c'est très bien, vous maîtrisez bien le tchèque.
J'allais le dire.
Désiré, chronique de Francis, quelques annonces, et puis nous reprendrons avec le concert de fin de saison. On essaiera de peut-être voler quelques minutes au blues des canuts. On va tenter de faire au mieux. Est-ce que c'est bien calé, le Désiré ? Oui, non, presque. Oui, il est calé. Désiré, faites attention, auditeur, auditrice, ça va secouer, c'est ça, Claire ?
Oui.
Bon, très bien. Et nous continuons à parler de l'auditorium dans l'émission spectaculaire, numéro 288.
On va dire antenne. Comment peut-on atteindre le Shibumi ? On ne l'atteint pas, on le découvre. Peut-être grâce à Christophe et à son mix parfait. Comment peut-on atteindre le Shibumi ? On ne l'atteint pas, on le découvre. Il est de ces auteurs que l'on est triste d'avoir déjà lu. On sait que nous n'aurons plus ce plaisir du choc littéraire. Je me souviens moi-même de ma découverte de Céline, par exemple, à travers Voyage au bout de la nuit, et s'en fut un choc littéraire. Il est de ces auteurs qui vous terrassent, qui vous élèvent et qui vous bouleversent, et que nous sommes tellement heureux de découvrir. Eh bien, c'est le cas en ce qui concerne cette magnifique découverte de Trévagnon à travers son roman Shibumi, publié chez Totem et sorti, une fois n'est pas coutume, en 1979. J'étais déjà né. Chronique presque littéraire, l'égoïsme se partage, hashtag 23. Comment peut-on atteindre le Shibumi ? On ne l'atteint pas, on le découvre. Dans le comportement, c'est la modestie sans pruderie. Dans le domaine de l'art, c'est la simplicité harmonieuse, la concision intelligente. En philosophie, c'est le contentement spirituel non passif. C'est exister sans l'angoisse de devenir. Et dans la personnalité de l'homme, c'est, comment dire, l'autorité sans domination. Cela signifie qu'il faut beaucoup apprendre pour découvrir le Shibumi. Cela signifie plutôt que l'on doit dépasser la connaissance pour atteindre la simplicité élégante. Eh bien oui, je vais vous parler donc aujourd'hui de Trévagnan, à travers une sombre histoire policière qui nous entraîne du Japon aux États-Unis en passant par le Pays Basque. Trévagnan nous livre une œuvre pleine de profondeur à travers son personnage principal, Nikolai L, l'assassin le plus doué de son époque et le plus recherché du monde. L'intrigue évolue également autour de la CIA, de la Mother Company, un organisme au service des pays les plus riches en ressources naturelles et qui agit donc avec un objectif purement économique et capitaliste. Le récit est ponctué de l'histoire de cet homme qui a passé son enfance au Japon, qui a appris à parler 6 langues et surtout a grandi dans cette culture nippone du début du siècle dernier. Son histoire croise l'histoire avec un grand H. On y découvre également que le jeu de Go n'est pas seulement un jeu, mais surtout une philosophie qui lui permettra de devenir ce qu'il sera. Trévagnan. Ils n'ont pas d'éthique, ils ont des règles. Là où compte pour nous la qualité, c'est pour eux la quantité qui importe. Ce que nous appelons honneur et déshonneur se nomme chez eux victoire ou défaite. Trévagnan est extrêmement dur avec les États-Unis, ses organisations politiques, mais également la nation et le peuple qu'il ne ménage jamais. Il apprit que les Américains étaient des marchands et qu'au fondement même du génie américain, il y avait de l'achat et de la vente. Ils vendaient leur idéologie démocratique comme des colporteurs. Leur guerre était des exercices de production et d'approvisionnement. Leur mariage était des marchés émotionnels immédiatement résiliables. Je tiens évidemment à préciser que Trévagnan est un auteur américain, et donc il se permet de dire des choses pareilles. Puis après avoir démoli la société américaine en bonne et due forme, Trévagnan nous ramène à une philosophie de vie, à une exigence de l'existence. Ça peut parfois paraître un petit peu trop condescendant et pompeux, mais c'est souvent juste, donc on accepte bien entendu. Ne tombe pas dans le travers de certains artisans qui se vantent de 20 ans d'expérience alors qu'ils n'ont en fait qu'une année répétée 20 fois. Alors ce n'est pas une œuvre récente puisque ce livre est de 1979, mais il s'agit d'une réédition sortie en 2016. Ça s'appelle Shibumi, c'est par Trévagnan, publié chez Totem.
Bon, là, ça a mieux marché. Je ne sais pas ce qui s'est produit au début. Je ne sais pas ce qui s'est produit. Ça a un peu planté. 14h54. Ce que je vous propose, Claire, c'est de faire des annonces très rapides. Parce que Blues des Canuts est presque prêt. Et puis, il nous faut encore évoquer quelques concerts à venir à l'auditorium. Il nous faut évoquer...
Le 24 juin.
Voilà, c'est ça. Il y a certaines choses. Alors moi, mes annonces vont être très rapides, même si j'en avais beaucoup à faire. Comme d'habitude, thématiquement, musique, théâtre, exposition, musique, eh bien, festival d'opéra à venir. Un festival qui porte un nom, Franchir les portes, qui se tiendra donc à l'Opéra de Lyon du 17 mars au 4 avril avec les Noces de Figaro, avec le Château de Barbe Bleue et puis aussi un opéra un peu étrange, Bluthaus, avec un nom un peu étonnant. Il s'agit d'œuvres de Monteverdi et puis d'un autre compositeur plus récent. Est-ce que j'ai son nom ici? Oui, je crois que je l'ai. Le compositeur plus récent, il s'agit de Georg Friedrich Haas. Il y a aussi un autre opéra à venir juste un peu avant, la semaine prochaine, Mélisande. Ce n'est pas Pelléas et Mélisande, c'est Mélisande tout court, à la Renaissance du 27 février jusqu'au 5 mars. Du théâtre, il y a plusieurs pièces. Cyrano Project, nous en parlions il y a de cela 2 semaines quand nous recevions Jérôme Sauvion, émission numéro 287. Ça commence la semaine prochaine, le 28 février, jusqu'au 18 mars, CNP Odéon, c'est à la Comédie Odéon. La crèche de François Hien que nous recevons à l'émission 284. La crèche a commencé le 17 février, c'est donné jusqu'au 1er mars et puis l'harmonie communale continue ses pièces. Il y a Le Dragon aussi qui commence cette semaine. Je l'ai lu le texte. Oui, ça peut être une belle pièce. Je ne pense pas que je m'y rendrai. Une belle pièce de Yevgeny Schwartz sur le plus ou moins totalitarisme. C'est un peu compliqué. Et puis au Célestin, il y a les règles du savoir-vivre de Jean-Luc Lagarce, mise en scène par Martial Di Fonzobo et donnée par Catherine Yégel. Ce sera un peu étonnant. Et puis ensuite, exposition. Je propose pour les expositions qui seront à venir, eh bien, d'écouter les émissions. Enfin, comment dire, pour les expositions qui sont actuelles, eh bien, d'écouter les émissions à venir. Le 1er mars, nous recevons les archives départementales pour parler des procès de mémoire, comment les représenter, comment les filmer ou les dessiner. Le 8 mars, le mercredi suivant, nous recevons les archives municipales. On reste dans les archives pour parler de l'exposition Les Mosaïques, la Scuola Mosaicisti del Friuli, qui est à Lyon. C'est aux archives donc municipales. Et puis, sinon, ça continue... Poussin au Musée des Beaux-Arts, ainsi que le spectaculaire, l'exposition qui est à Luc Dunôme. On parlera aussi peut-être prochainement de ce qui se tient au Chalala, café-théâtre, cabaret, Fab Caro, une belle œuvre, et si l'important c'était aimé.
Que j'avais chroniqué il y a pas longtemps.
Mais tu triches pour Trébagnan, c'est la bande dessinée qui était amenée au roman, c'est bien ça, non?
Non, pas du tout.
Mais tu sais qu'il y a une bande dessinée?
Non, je ne savais pas. J'ai découvert cet auteur.
Claire, quelques minutes, qu'évoquer comme concert aussi, fin de saison toujours, c'est sa deuxième partie, mai-juin, vous êtes sur le mois de juin.
Oui, c'est vrai que je voulais parler de ce concert au Parc de la Tête d'Or, parce que c'est pas tous les matins que l'Orchestre de Lyon sort des murs en grand effectif, et ça sera un grand concert gratuit avec le directeur musical Nicolas Schepp-Snyder, qui a vraiment envie d'aller au-devant des Lyonnais, d'investir la ville. Donc, faut venir, ça sera gratuit, ça sera de la belle musique.
Ça se passe
en première
où,
partie. Alors, je sais pas exactement où ça sera.
Oui, il y a plusieurs noms dans le Parc de la Tête d'Or. Il y a la plaine des Jeux, la plaine des enfants, je crois les enfants du Rhône, il y a différentes choses, différents
surtout
endroits.
Surtout intéressant aussi, c'est qu'en première partie, il y aura les enfants des orchestres Demos.
Ah oui.
Demos, c'est un très beau programme qu'on fait. Donc, c'est des enfants qui sont dans les zones d'éducation prioritaire, auxquels on confie un instrument, qui deviennent super fiers d'être dans l'orchestre, d'avoir un instrument, qui sont un peu les porte-parole aussi de cette culture qu'on aime dans leur classe, dans leur famille. Et qui donc montent on a deux orchestres comme ça qui sont montés dans toutes les périphéries lyonnaises. Et donc, ils donneront leur concert au terme d'un an de boulot. Même, je ne sais pas si c'est des cycles de 3 ans, je ne sais même pas s'ils ne sont pas au bout de la deuxième année déjà, mais avec le Covid, on est perdu. Enfin bref, il y aura, je ne sais pas, 150 enfants en première partie, ça va être super, puis après l'ONL...
Maxime Tortelet sera à la direction de cet orchestre.
Demos, mais voilà, c'est ça, Nicolas Schepp-Snyder qui sera...
Pour la deuxième partie.
Pour la deuxième partie avec l'ONL, donc il faut venir parce que ça va être...
Ah bah c'est gratuit, puis il fera beau le samedi 24 juin, ce sera post-fête de la musique, juste c'est après. Ça. C'est ça, la fête de la musique aura eu lieu juste un peu avant. Les précédents, Francis, ne sont peut-être pas encore arrivés, donc ça viendra en temps et en heure. La semaine précédente, ou même ces 2 semaines avant, les jeudis 15 et samedi 17, peut-être un tout petit mot de ce concert, un concert, une belle symphonie, la dernière.
Ah, c'est la 9e de Beethoven.
Voilà, c'est ça, effectivement.
Oui.
Avec de Gustav Mahler, des extraits des Knaben Wunderhorn.
Je ne sais pas exactement encore quel leader, mais bon.
Ce sera bien l'orchestre avec encore. Et il en dirige combien des programmes, Nicolas Schepp-Snyder?
Je crois qu'il en a 10 par an. 10, 12, j'en sais rien, j'aurais dû réviser, je suis désolée. Mais enfin, on va dire une petite dizaine, quoi.
Et nous, là, pendant cette émission, on en aura annoncé 3-4, c'est ça? On aura
oui,
annoncé...
parce que c'est souvent par série. Donc là, il est là quasiment un mois. Comme ça, il vient, quand il vient, plutôt que de venir une semaine de temps en temps, il préfère regrouper. Comme ça, il fait vraiment un travail de fond pendant un mois. Après, quand l'orchestre est bien à point, il peut passer la baguette à d'autres.
À d'autres chefs. On aurait peut-être dû dire un dernier mot du concert ce soir, le mercredi 22 février, à 20h. C'est le Concert Rebau Orchestre de Amsterdam, avec deux œuvres, la cinquième de Prokofiev, je crois, et puis un concerto par Lisa Batkashvili. C'est quel concerto?
C'est Beethoven, je crois.
Un concerto de Beethoven pour
les violonistes. Lisa Batkashvili, elle joue au Clair de la Lune, il faut y aller. Donc si elle joue Beethoven, c'est très très bien, mais si elle joue autre chose, c'est très bien aussi.
Et pareil, le concert très beau orchestre.
Ah ben, c'est un orchestre magnifique. Et puis alors, la cinquième de Prokofiev, je dirais un truc, ça se dit pas en vrai, mais je déteste la musique de Prokofiev. Sauf quelques pièces, dont la cinquième symphonie qui est vraiment un truc...
Ces ballets, vous ne les aimez pas trop, les ballets? Non? Moyen?
Moyen, enfin des petits bouts...
Roméo et Juliette, Cendrillon.
Ah non, mais il y a des passages que j'adore dans Cendrillon, dans Roméo et Juliette. Mais enfin, c'est pas ma tasse de thé. Mais alors, la cinquième symphonie, c'est vraiment une claque. Vraiment, c'est une grande, grande symphonie. Et puis, Batkashvili, faudrait que je
une grande soliste.
Oui. Voilà, je peux même pas vous dire, je crois que c'est Beethoven, mais je m'en moque tellement de ce qu'elle va jouer. J'aime tellement cette violoniste. Que je me dis, bon, bah, si c'est du Prokofiev, c'est pas grave.
Et c'est un orchestre invité. L'auditorium le pratique assez souvent d'inviter des orchestres des ensembles baroques, notamment. Il y aura différentes choses à venir encore.
C'est plus difficile de faire venir un grand orchestre comme le Concert de Beau. Ça fait, il faut payer le voyage, l'hôtel, les cachets pour tous ces gens-là. Donc c'est vrai que c'est plus facile de faire venir un orchestre baroque français que. Mais on aime bien quand même. Évidemment, c'est notre rôle aussi de faire venir ces grands orchestres.
15h30, minutes. Il est temps d'écouter le Blues des Canuts. J'annonce les émissions à venir. Il y a le Blues des Canuts à commencer dans quelques instants. 17h, Mélomaniac. 18h, Mayday. 19h, Canu Info. 20h, Idée Noire. 21h. Et oui, j'ai perdu le fil. 21h, j'ai perdu le fil. Je ne sais plus. Mais je le savais à une époque. Je sais si c'est la bande son de nos révoltes ou bien à l'Est l'Éden. En revanche, à 10h du soir, ce sera bien Boulimix. Claire, je vous remercie. Peut-être qu'on pourrait recevoir Giovanni quand il. Fin de saison pour indiquer les 2-3 concerts qui seront encore à venir.
C'est vous qui voyez.
Il est super sympa en plus. Supporter de foot, hein, je crois, Francis. Supporter. Alors, il y a deux clubs à Vérone.
Moi, je suis pas supporter de foot. Je regarde jamais pour
faire semblant que c'est toi qui aime bien le foot. Il y a l'Hellas Vérone et le Chievo Vérone parce que c'est magnifique. Un premier violon qui vient de Vérone. Vérone, la ville de Roméo et Juliette.
Moi, je supporte la Roma et ils viennent mettre une pâtée à Vérone le week-end dernier. Je le dis en passant.
Hein. Alors attention, Giovanni va mal le prendre si on en parle avec lui.
Donc en fait, il n'y a que moi qui ne regarde pas le foot.
Voilà, c'est ça. Écoutons, clin d'œil, Francis, clin d'œil à Fiona McGown. Te rappelles-tu cette cantatrice qui était intervenue dans le festival précédent Opéra de Lyon l'année 2022. C'était le festival, la thématique, c'était. Je ne sais plus, mais elle était dans la partie qui s'appelait Trauernacht. L'opéra avait organisé, un metteur en scène avait organisé des chorales, des cantates de Bach, les avait organisées en une nuit funèbre. Et Fiona McGown était l'une des deux chanteuses et elle chante du Camille Pépin. Donc voilà, ça fait clin d'œil au programme à venir. C'est la semaine prochaine, c'est ça les 2 mars et puis et 4 mars, concert avec la c'est quelle symphonie déjà? Le Don Quichotte, avec le Don Quichotte de Strauss. Donc écoutons cela pour nous dire au revoir. Blues et Canuts commence dans quelques instants. Merci beaucoup Claire, on se revoit avant 10 ans peut-être?
On va essayer.
C'est une bonne chose. Francis, la semaine prochaine?
À la semaine prochaine.
Très bien, je lance cela. Est-ce que je l'ai ici? Oui, je crois l'avoir ici. C'est très bien. Portez-vous bien, auditeurs, auditrices. À bientôt. Ciao tout le monde.
Nobleness, the high inconsiderable one, his love is his companion.